Jean Douchet. Ouvrez les guillemets. Passionné, je crois qu'on a besoin d'en savoir toujours plus pour réellement aimer. On ne peut pas apprécier quelque chose si on n'a pas essayé, d'abord, de comprendre cette chose et ensuite, en tentant de la comprendre, de découvrir qu'elle est encore plus riche, qu'elle avait encore plus de raisons d'être aimée. En quête de cinéma, vous propose de passer un moment avec le cinéaste Nader S.A.H., le temps d'une promenade dans Marseille, bercé par la musique de Fadel Messaoudi, Alaoud, entre autres, mais pas uniquement.
Thank you. Alors on est à Marseille, on est en pleine rue, on est en hiver même si l'hiver n'existe plus trop à Marseille. On est avec le cinéaste Nader S.A.H. On va faire une petite promenade dans Marseille. On va partir du quartier des Chartreux, 13004, et on va aller jusqu'à la plage des Catalans. Et durant cette petite promenade où nous visiterons Marseille, nous allons discuter de cinéma avec Nader qui, pour la première fois, découvre Marseille. C'est ça, Nader ?
En effet, salut à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et voilà, c'est ma première à Marseille pour le festival La Première Fois, où je viens présenter La Guerre des Centimes samedi, c'est-à-dire demain, à 21h.
Au Vidéodrome 2. La Guerre des Centimes qui est, bon, c'est pas ton premier film, c'est un deuxième film, c'est ça ?
On peut dire que c'est mon deuxième film, le premier étant un projet de fin d'études. Et ici, en France, c'est considéré comme un premier film dans le milieu un peu, on va dire, professionnel, entre guillemets, où il y a un producteur qui t'accompagne pendant cette procédure. Et j'ai fait le film avec le Grec. Pour un concours qui s'appelle le Greg Rush, sélection à partir de Rush. Et j'avais tourné au début tout seul, et après ils ont rejoint l'aventure, et maintenant on est en festival et c'est génial.
Et donc ce premier film qui est un film de fin d'études, mais qui n'est pas considéré comme un premier film selon des critères, on va dire, de production, mais en soi qui est un premier film, tu l'as fait quand tu étais à la fac en Tunisie ? C'est ça, et c'est un peu une sorte de carnet de route sur un moment de ta vie en Tunisie.
Alors plus précisément, c'est un portrait autour de ma mère et de mon frère. J'ai essayé de raconter leur quotidien, de rendre hommage à ma mère qui s'est occupée en vrai de mon frère, qui est épileptique et qui a 30 ans depuis sa naissance, depuis qu'il a la maladie. Donc pour ce premier film, j'ai suivi mon instinct et c'est devenu... Après, je me suis rendu compte que j'étais en train de lui rendre hommage et de la remercier à ma manière d'avoir été là tout le temps, malgré l'handicap, malgré la fatigue. Et voilà, et j'en profite, j'espère qu'elle écoutera ce qu'on est en train de faire pour lui redire merci. Merci maman, quoi.
Et il s'appelle comment ce premier film, entre guillemets ?
Alors, il s'appelle Menji 2.Ya Aïcha. C'est en fait comme une tirade de scénario, de fiction, quand on écrit les dialogues avec les personnages dans un roman. On écrit la personne qui parle, deux points, et tiré. Monji crie tout le temps son nom en fait, à la maison pour l'appeler. Donc il dit tout le temps Aïcha, Aïcha, Aïcha. Et le titre c'est ça, Monji qui appelle Aïcha, quoi.
D'accord. Et donc ça c'est ton premier film. Et est-ce que tu peux nous dire, nous présenter qu'est-ce qui fait que tu étais retrouvé dans... le bain et le désir de faire des films ?
Alors, il faudrait que je remonte à ma première expérience. Je faisais du théâtre à ce moment-là. Et j'ai été pris sur un film pour jouer en tant qu'acteur. Et j'avais le rôle principal. Et donc, je vais à Tunis, la capitale, et je découvre pour la première fois l'ambiance d'un tournage. Et c'était impressionnant. Parce que c'était grosse machine, grosse caméra, gros tournage, régie, des camions, plein de monde, des assistants, bref, toute l'industrie, voilà exactement, qui était en place. Ça m'a donné envie d'être à la place de ce réalisateur qui dirigeait un peu comme un chef d'orchestre entre les acteurs, l'équipe technique. Ça me plaisait, quoi, comme... Ça m'a plu directement et je me suis dit, il faut que j'aie mon bac pour intégrer l'école de cinéma à Tunis. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment bossé pour ça et j'ai eu mon bac. Alors je vais à la fac et je commence petit à petit à découvrir le cinéma. Raconter une anecdote, toi tu connais peut-être, c'est avec Gilani. Gilani Saadi, rappelons-le, qui est un réalisateur tunisien et qui était mon professeur à la fac en première année. Il débarque un jour et il a une GoPro dans les mains. Il nous la montre, il dit moi je vais faire un film avec ça, j'ai envie de faire des films avec cette GoPro. Et à ce moment là en fait c'est un truc qui est un déclic, qui en fait c'est pas les grosses caméras, c'est pas forcément la grosse machine, la grosse industrie pour réussir à faire des films, Et en regardant ce que fait Gilani, j'ai beaucoup appris parce que avec des GoPro, il a réussi à faire quand même une série de films autour de Bidoun. On pourra aussi peut-être en parler si tu veux. Et voilà quoi, à partir de ce moment-là, j'ai découvert le documentaire aussi à l'université. C'était un exercice, ça m'a beaucoup plu dans la façon de procéder, surtout aller vers l'autre et essayer de construire quelque chose avec des gens dans leur propre rôle. Et c'est ce qui m'a poussé finalement à filmer ma famille et de faire le choix du documentaire avant tout quoi.
D'accord. Donc le fait, la rencontre avec Gilani finalement est très importante parce qu'à un moment, elle fait que tu aurais très bien pu... Merci. Tu aurais très bien pu faire le choix de t'orienter vers un cinéma qui est plus lié à l'industrie. Et finalement, cette rencontre te donne finalement le désir de te dire « Tiens, je vais faire un cinéma qui se bricole avec pas grand-chose. » D'une part, excusez-moi, là, j'ai ma cigarette dans la bouche. Et d'autre part, que ce cinéma qui se bricole avec pas grand-chose, tu fais un choix, comme Saadi Gilani l'a fait, c'est-à-dire de faire en sorte que les outils ne soient pas forcément des outils de cinéma au sens classique du terme. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a rapidement quelque chose... Alors on le voit peut-être moins sur Mugi.
Mugi, alors ça a été fait avec une caméra HE8.
Ah ouais, dès là.
Ici, voilà, c'était déjà... Bon, alors c'était un choix en même temps fait à travers la fac parce que c'était les seules caméras qu'on avait. Disponible à l'université, c'était des caméras en cassette. J'ai pas le choix d'avoir une autre gratuitement, à moins de louer une numérique. Il y avait les 5D à l'époque, je crois. Et bon, j'avais pas de budget, j'avais rien du tout. J'ai pris la caméra de la fac et c'était avec des cassettes. Et à ce moment-là, je découvre aussi que ça donne une esthétique assez particulière au film. Ça lui a donné, même si le support est ancien, ça lui a donné un coup de jeunesse, j'ai l'impression, et lui a permis de circuler dans beaucoup de festivals, car ça se distinguait des autres images, peut-être, je me dis, avec le recul et en regardant aujourd'hui le film, quoi, c'est-à-dire les couleurs, le grain.
Tu veux dire une image qui est un peu plus cette image qu'on voit quand même assez uniformisante de cette matière HD,
oui, voilà.
Très propre, salut Ben, très lisse, et qui au final, on se pose la question si c'est vraiment le cinéaste qui filme ou si c'est Sony, quoi. Et que là, tu retrouves une sorte de particularisme et de fragilité avec cette matière HE8,
ouais.
Quoi.
Oui, c'est ça exactement, Lou. C'est exactement ça. Tu l'as bien résumé, je crois.
Oui, j'ai bien appris ma leçon. Hein. Je la répète là depuis hier pour me dire faut que je lui sorte ça.
Oui.
Non, mais c'est super intéressant parce que là, on parle de tes premiers films. Puis d'ailleurs, tu en as fait un autre de film. Alors là, c'est pendant que tu étais à la fac.
Alors le deuxième... c'est un film fait autoproduit, c'est-à-dire c'était en master 1 et je voulais absolument le terminer ce film pour pouvoir passer à autre chose. C'est aussi c'est un film qui s'inscrit dans le registre familial, ça s'appelle Journal intime, un jour à Tunis, et
voilà.
Ça c'est un film autoproduit fait seul quoi, sans producteur, sans montage tout seul, à la caméra, vraiment du début à la fin tout seul. C'est un autre style.
Bah avec aussi cette question déjà de plein de supports différents.
Avec un téléphone portable comme matière principale et en fait je filmais ce qui se passait tous les jours devant moi pendant 3 ans. Et je me suis retrouvé avec beaucoup de matière dans mon ordi et sur mon disque dur et j'avais cette idée de les regrouper autour d'un sujet global, c'est de l'intime encore une fois. Et donc je suis retourné sur cette matière-là en arrivant en France parce que j'avais du temps au début. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le film à ma sauce. Et je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment une forme libre qui s'est créée à ce moment-là. Et je sais que même si j'avais peut-être des producteurs, jamais j'aurais pu peut-être faire ce genre de forme. Quoi.
Ouais, d'accord. Attends, on va s'arrêter là parce qu'on va prendre le bus.
Alors, on est
81, Libération d'Ormeuil. Qui va nous emmener à la plage. Mais ce qui fait qu'assez rapidement, parce qu'au-delà de la... C'est-à-dire que toi, dès le départ, la question du cinéma est liée à une question intime. Qui part de toi, de ta vie, totalement.
Alors, je ne sais pas comment ça nous a pris, cette vague, mais après la Révolution, il y a eu, je crois, une explosion de films la libération, la démocratisation de l'outil, de la caméra, et surtout des films qui passaient en permanence, des festivals qui rouvraient, des festivals qui se créaient.
Et quelles années pour situer, parce que 2011, tu parles de la, du moment de, d'explosion en Tunisie,
oui,
qu'on a appelé révolution.
Révolution du jasmin, voilà, ça a été appelé comme ça.
Donc c'est 2011
Voilà, fin 2011, 2012, début. Et c'était la même époque où j'ai intégré la fac. Donc il y a eu déjà le retour de beaucoup de professeurs dans Gélénie, dans le milieu de l'enseignement. On était tous portés par une énergie incroyable de partage et de transmission. Ça, ça fait partie, je crois, des choses qui se passent après, comme ça, révolution toujours entre guillemets. Mais aussi, il y avait une vague de réalisateurs qui filmaient leur propre vie et comment ils ont vécu la révolution, par exemple, à travers leur père, leur mère. Et je sais pas pourquoi, je crois que ça nous a tous pris de faire des films sur nos familles.
Tu dis que c'est à la fois quelque chose de l'outil qui a permis ça, mais finalement pas que. Il y a quelque chose aussi de politique dans le fait de comment on peut exprimer ce qui se passe et qu'on nomme Révolution des Jasmins. Et peut-être que pour l'exprimer d'une manière qui nous sera la plus juste, c'est par la question de l'intime qu'on va le trouver. Quoi.
Oui. Et ça revient souvent maintenant dans les films, d'essayer de joindre l'intime et le politique. Et ça tourne toujours maintenant. C'est-à-dire c'est un axe que j'aborde pour mes films, en tout cas. J'essaie toujours de joindre ces deux côtés-là et je l'ai réexpérimenté avec La Guerre des Centimes pour mon dernier, quoi.
D'accord. Alors parlons un peu de La Guerre des Centimes, là, donc qui est le film qui tourne un peu en ce moment, moi, qui est en train de tourner, quoi. C'est donc par quoi on pourrait commencer par dire. Bon, c'est de la caméra HE8, c'est une matière qui est assez surprenante.
Caméra HE8, il faut souligner aussi le fait que j'ai commencé courser avant d'entamer le film, c'est-à-dire j'ai commencé à travailler en tant que courser pour pouvoir me débrouiller, payer un loyer, subvenir à quelques besoins essentiels, quoi, pour pouvoir sortir boire un verre sans vraiment se prendre la tête et tout simplement vivre.
Sans penser à un film.
Sans penser au film au début, mais le film est rapidement arrivé parce que j'étais inquiet. En vrai, je pédalais de plus en plus et j'avais plus le temps d'aller au cinéma. Je consacrais plus autant de temps à ce que j'aimais faire et pour ce quoi je suis venu en France, en vrai. Du coup, c'est devenu une économie de tournage. En même temps, je tourne et en même temps, je travaille, quoi. Donc, ça me permettait de me dire, je suis en train de faire du cinéma. Après, bien sûr, il y a le deuxième axe qui m'a le plus motivé à aller dans ce sens-là et trouver cette économie de vie. C'est l'arnaque de l'histoire, quoi. C'est-à-dire, avant de travailler, on nous a vendu, on était libres, on était nos propres patrons. Et au bout d'une semaine, assez rapidement, j'ai compris que j'étais pas... c'était faux, quoi. Il y avait une question qui se posait à ce moment-là, parce que beaucoup pensaient que c'était vrai. Et par rapport à la liberté de l'emploi, choisir ton emploi du temps, la tenue, en fait finalement, on peut aborder plein de sujets aussi par rapport à la question de l'ubérisation et la précarité et l'auto-entrepreneur. Et là, je me dis un truc à faire.
Donc ce qui fait que tu te retrouves à la fois dans une double tension ou intensité, c'est-à-dire d'un côté le cinéma te manque parce que tu travailles de plus en plus, et d'un autre côté le travail que tu es en train de faire, tu te rends compte en fait que c'est une forme de pure exploitation. C'est ces deux énergies qui font que tu te dis, bah tiens là, il y a la nécessité, t'es dans une nécessité de faire un film à la fois par rapport à ton désir de cinéma, mais par rapport aussi à la situation politique.
La situation politique, et ça m'arrangeait un peu parce que ça partait toujours du même principe de l'intime. Donc je partais d'un regard vraiment de coursier de l'intérieur, mais cette fois j'ai fait un choix de ne pas me filmer en vrai. J'ai dit, bon, je suis déjà sur deux autres projets où je me filme et deux autres qui arrivent où je suis quand même assez présent à l'écran. Je voulais essayer autre chose, regarder autre chose et montrer autre chose, quoi. Et pas tomber dans une sorte de narcissisme un peu... intellectuel où ça devient des films auto-centrés que sur soi, et malheureusement il y en a ça a marché un moment et bon, mais ça marche plus autant, quoi.
Faut faire attention. Alors est-ce qu'on va prendre le Pharo? On va prendre le bus, le Pharo.
Ok,
voilà, pour aller à la... t'as un ticket, toi?
Non.
Hein?
Non.
Bon, c'est pas grave. Bonjour.
Non, je vais faire avec j'ai un ancien, mais je sais pas si
bon, bien.
Yeah.
Voilà, donc on est dans le bus 81.
Le bus en situation irrégulière.
Situation irrégulière, mais on va faire attention et essayer de... Mais après, tu peux aller prendre ton bus, ton ticket, hein, t'as le temps, là.
Ah, je peux ?
Ouais, vas-y. Donc, voilà, Nader a été prendre son ticket de bus à 1,60€, qui est un bus qui, théoriquement, va nous emmener à la plage des Catalans. Excusez-moi, on va à la plage des Catalans, par ce bus ?
Au terminus.
C'est le terminus.
Le terminus, et après,
c'est à pied. D'accord, super, merci. Donc voilà, donc c'est le terminus du bus qui va nous emmener à la plage des Catalans. Le temps est plutôt gris et il fait plutôt froid, ce qui est un peu un temps normal pour le mois de mars, alors que les mois de décembre, janvier et février étaient plutôt des mois un peu trop ensoleillés. Sinon, qu'est-ce qu'on peut raconter en attendant que Nader revienne ? Qu'en ce moment, il y a un connard virus, un coronavirus, qui... on sait pas c'est quoi, mais voilà, il fait paranoïer les gens. Bon, c'était juste histoire de combler un blanc. Bon, ça y est, t'as pu prendre...
C'est bon, maintenant je suis en situation régulière.
T'es en situation régulière, ouais. D'ailleurs, on en viendra à cette question de situation régulière ou de situation irrégulière. Donc, alors, on en était à ce déclenchement de cette nécessité, ce désir pour la guerre des centimes, ce qui fait que tu... assez rapidement, dans le mouvement de ton boulot, tu te mets à filmer.
Dans le mouvement même du travail, exactement. C'est-à-dire pendant mes livraisons, j'avais aussi ma caméra sur moi, à chercher des images, à trouver un champ d'attaque. Et j'étais surtout prêt à filmer les manifestations parce qu'on avait pas mal à ce moment-là. Donc j'avais tout le temps ma caméra pour, dès que je terminais mon shift, passer à République Direct et enchaîner le tournage. Jusqu'à que j'ai rencontré après les deux personnages qui sont venus par la suite. Et à ce moment-là, ça s'est éclairci pour moi parce que j'avais la possibilité d'aller vers un sujet commun, vers quelque chose de très intime. Et je me voyais beaucoup dans leur regard, dans leur façon de parler, dans leurs idées, dans leur courage, dans leur motivation de réussir et d'arriver à quelque chose, quoi, de prouver quelque chose. Donc voilà, il y avait une identification très forte avec Marouane et Omar, les deux personnages du film, un Tunisien, un Algérien. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé à faire un peu ce travail qu'on demande à un cinéaste, quoi, ou à un réalisateur de film, travailler avec ses personnages, essayer de construire une complicité, de les connaître, voilà, pour pouvoir vraiment en parler, quoi.
D'accord. Et le tournage, alors, il se passe comment ? Il s'étale sur la durée de...
Il s'étale à les 2 ans, 1 an et demi.
D'accord. Alors tu filmes sur 1 an et demi.
1 an et demi entre les manifs et le temps d'installer quelque chose avec les personnages. Après, j'avais... voilà.
Tout en continuant à travailler
tout
en tant que
continuant à travailler et d'aller à la fac. Donc voilà, c'était... l'organisation de la vie, elle était comme ça à ce moment-là. Et à chaque fois, bien sûr, je prenais des notes et pour savoir à quel niveau, qu'est-ce que j'avais comme matière, puisque je ne pouvais pas revoir la matière tout de suite. J'ai laissé tout dans les cassettes et j'ai rien numérisé.
C'était par un choix ou une question d'économie ?
C'était par un choix et aussi peut-être une économie parce que ça coûtait très cher et qui m'aurait pu coûter très cher en vrai, parce que encore plus cher que la numérisation des cassettes, parce que j'avais pas vérifié le son, j'avais rien vérifié de la caméra en vrai. J'avais plein de cassettes sans savoir finalement s'il y avait du son ou pas, et le seul moment où je réfléchis à ça, c'était au moment de la numérisation.
Je ne savais pas ce que tu allais forcément découvrir, quoi.
Voilà, je me suis dit peut-être que j'allais pas avoir de son. Je suis rentré dans une hystérie totale, quoi. Comment j'ai pu ne pas vérifier au moins la première cassette pour être sûr, et parfois voilà, ça nous échappe en film parfois sur ces questions là et c'est pourquoi c'est mieux parfois d'être accompagné aussi avec un producteur ou des amis autour qui puissent peut-être t'éclairer sur ces choses-là qui t'ont dépassé. Je pense que je l'aurais vu sur d'autres films, mais sur le mien, ça m'a échappé bizarrement.
Ouais, ouais. Bah, peut-être que c'était à vivre tout seul aussi, quoi.
Oui, à vivre tout seul, mais j'ai découvert qu'il y avait du son, et le son, il était audible. Et donc voilà, j'ai remercié les cieux et les terres et tout ce que tu veux, parce que ça aurait pu être pire, quoi.
Et donc, à peu près, j'avais 80% de la matière quand j'ai eu le grec. Et j'ai commencé à numériser à ce moment-là pour vraiment avoir du concret devant moi en images. Et j'ai regardé, j'ai essayé des choses et j'ai complété. C'est-à-dire, après montage, je suis retourné une deuxième fois au tournage en convoquant les protagonistes comme des acteurs pour faire une livraison, parce qu'il me manquait une livraison, pour faire donner juste un sac à la cliente, parce que je voulais avoir ça dans mon montage, le vol du vélo et le split screen que j'ai dû recréer sur place en m'inspirant de la réalité, quoi.
D'accord.
Voilà.
Tu as fait un deuxième tournage pour un peu renforcer ce que tu avais attrapé au premier tournage, quoi.
Surtout pour ce désir de couper l'écran en deux. En fait, tout le montage pour moi, c'était le casse-tête du montage. Comment faire fonctionner deux personnages plus des manifestations, quoi. Plus des rassemblements qui n'ont rien à voir avec les personnages du film. Hein, sauf le travail, bien sûr, mais ils ne sont pas aux manifs, on ne les voit pas là-bas. C'était vraiment un casse-tête jusqu'au moment où on a coupé l'écran en deux, c'est-à-dire fait un split screen où on peut faire fonctionner les deux personnages en même temps, quoi. C'est-à-dire on a trouvé un moyen d'arriver aux interviews, aux moments très intimes, en parallèle, en même temps, quoi. Avant, c'était juste Omar au début, on faisait des interviews d'Omar et après on voyait un peu Marwen. C'était deux histoires complètement détachées l'une de l'autre, tu vois. Mais avec le split screen, ce qui est magique, c'est qu'on a réussi à les faire fonctionner en même temps, en parallèle, et jusqu'à l'arrivée des interviews où à ce moment-là, chacun a pris son chemin, quoi. Mais ils ont été associés pour pouvoir être dissociés peut-être d'une façon naturelle à ce moment-là.
Et c'est pas un geste de montage qu'on voit beaucoup, la question du split screen. En général, on le voit plus dans des gestes un peu plus de clips,
oui,
ou de choses comme ça.
Quoi.
Et c'est vrai que ce parti pris, moi, quand j'ai regardé le film, j'étais un peu déstabilisé. J'ai au départ du mal à l'accepter, mais je pense parce que c'est un langage que j'ai figé à un endroit. Et en fait, ça marche très bien dans ton film. Il y a vraiment un truc où il y a une sorte de miroir des deux personnages qui fait qu'on accepte autour, on accepte de les reperdre. Et c'était un pari osé, quoi, quand même.
C'était un pari osé, ça a marché. Je me souviens encore de la projection d'équipe. Je ne sais pas si on peut appeler ça équipe à l'intérieur du grec. On descendait au sous-sol. Il y avait une pièce où il y avait un canapé, et deux fauteuils et une télé, quoi. Un endroit génial pour regarder des films, je crois. Avec plein de cartons au fond. Bref, et on met le film, donc on va regarder la version 4 ou 3. Et je me rappelle encore du regard de Anne Luto et Marcello au moment où il y avait le split screen. Tous les deux se sont regardés au même moment, en fait, parce que je crois que ça les a surpris aussi à ce moment-là. Et ça a décollé, je crois, même pour eux. À ce moment-là, ça tenait la route. Et ça, c'était très important pour moi, quoi. Qu'on soit tous d'accord sur ce film qu'on va défendre après devant tout le monde.
Là-dessus, ça a été quoi ? C'était ta première expérience avec une production ?
Ma première expérience avec une production. Ce qui m'a vraiment étonné au grec, c'est j'ai retrouvé l'ambiance de l'université à la fac. C'est-à-dire où tout le monde était dans le film pour le film. Alors qu'avec un producteur, j'avais tellement entendu d'histoires et histoire de producteur qui bloque le film, histoire de producteur qui a piqué les droits au réalisateur, qui l'a empêché de faire son tournage comme il le voulait. J'entendais ces histoires, c'est un peu l'histoire du méchant loup que j'ai envie d'éviter et que j'ai pas envie de vivre en vrai, parce que c'est un plaisir avant tout, j'ai pas envie que ça se transforme en cauchemar, un tournage, quoi, une expérience de film. Donc voilà, j'étais très réticent par rapport à choisir son producteur est vraiment une question pour moi, quoi. Comment ça arrive, c'est vraiment une vraie question. Et bon, avec le grec, c'est déjà une association qui existe depuis 50 ans. Je suis arrivé au moment où ils fêtaient leurs 50 années. C'est un passé, c'est un parcours. Ça a une réputation aussi de produire les premiers films et de suivre le souhait du réalisateur. C'est lui qui a le dernier mot, quoi. Et c'est ce que j'ai retrouvé et je suis très content.
Ça, c'est plutôt comme première expérience, ça s'est plutôt bien passé. Et ça peut te donner confiance pour la suite, sachant qu'il faut toujours être prudent dans ses rapports à des rencontres avec des producteurs qui, voilà, vu qu'il y a de la question économique qui est en jeu, c'est des questions qui sont complexe, quoi. Alors avant de... On va faire un petit détour, là, parce que donc t'es à Marseille, t'es au festival la première fois. Un festival, comme tu dis, qui a une dizaine d'années sur Marseille et qui concerne les premiers films, on va dire, plus ou moins, sachant que la question de premier film semble être le fait que c'est des films qui, pour la première fois, sont confrontés à une question de production, au final, c'est ça, parce que c'est souvent on voit des cinéastes qui sont à leur deuxième ou troisième film, ou des films d'école, mais bon, voilà, on va pas dire grand-chose là-dessus, mais donc tu as vu quelques films pour le moment, est-ce que tu pourrais, je sais pas, nous donner... Les films que tu as vus, qu'est-ce qu'ils t'ont raconté, les films que tu as vus pour moi à ce festival, sur l'état du cinéma, ou on pourrait dire l'état du monde, ou comment ils ont nourri ta réflexion?
Alors, j'ai vu pas mal de choses, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est les films de la réalisatrice Alessandra Celestien, qui est invitée d'honneur pour ce festival. Donc elle a projeté son dernier film, et le lendemain elle a fait une masterclass. Donc je suis parti écouter ce qu'elle allait nous raconter, et là elle nous a raconté en toute franchise et en toute liberté les anecdotes de ses tournages, et comment elle a fabriqué son tournage, et comment elle fabriquait ses séquences, et comment elle fabriquait la réalité. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment pousser les limites du réel à un point extraordinaire, parce que beaucoup l'ont fait, mais son idée, elle aussi, m'a beaucoup marqué. Elle a, avec son film, elle a créé en fait une entreprise spécialement destinée aux pêcheurs en Alaska, pour vraiment embaucher des gens pour partir en Alaska. Donc voilà, elle a créé toute une fiction avec des personnages réels qui pensaient vraiment aller travailler là-bas. Et elle-même ne savait pas en fait dans quoi elle s'embarquait. Elle a juste répondu à une proposition d'Arte. Il fallait des Italiens qui partent en Alaska. Donc elle a créé cette histoire. Elle s'est rappelée d'une ancienne histoire qu'elle avait vue dans la réalité. Une annonce comme ça dans le bus. C'est juste une image, c'est drôle. Une image dans le bus où ils annoncent un job de rêve en Alaska, l'argent et tout ça. Et généralement, ces emplois sont fictifs en fait. Et cette image même, elle a repris juste cette image pour faire tout un film autour de ça, de ces Italiens qu'elle embauche elle-même dans cette entreprise qu'elle a trouvée. Et elle les emmène en Alaska pour finalement découvrir que ce travail était fictif et que ça n'existe pas, quoi. Et ils décident de rester là-bas pour les vacances, quoi, finalement. Et ça devient un autre film, deux films dans le même film. Et j'ai beaucoup aimé cette liberté qu'elle avait prise malgré la pression de la production, parce que c'était affolé, ils voulaient un film sur les pêcheurs en Alaska, et finalement on leur annonce qu'il n'y a pas de société, cette société était anonyme, donc j'imagine les producteurs en train de s'arracher les cheveux, et elle qui était morte de rire surtout de cette anecdote, tu vois. J'imagine sur le moment ça a dû être l'enfer pour trouver une solution, mais avec le recul maintenant je la vois rire, et rire, pour elle n'en pouvait plus de rire, et ça m'a beaucoup... Ça marque, quoi, ce que j'ai vu.
Comme manière de fabriquer, ouais, de faire cinéma, quoi, tu veux dire. Entre réel, fictif...
Et elle n'a pas fait de fac aussi, elle n'a pas fait d'université. Donc c'est un peu sa forme libre, comment elle a vu le cinéma, quoi. Ça, c'est génial. C'est une grande liberté que parfois on peut perdre quand on fait des études de cinéma.
Et est-ce que dans les autres films que tu as vus, parce que là on peut dire que c'est l'invité d'honneur, donc c'est une cinéaste qui a une certaine expérience, mais dans les autres films que tu as vus, est-ce que tu as vu un peu justement cette notion de liberté que tu as ressentie en voyant les films de cette cinéaste?
Alors je vais citer d'autres films peut-être qu'Alessandra. Il y a La forêt de l'espace de Victor Missoud, qui est étonnant. Tout d'abord je voudrais dire qu'il est... qui fait partie de le même lauréat Greg Rush que j'ai eu. Donc on s'est croisé beaucoup dans les couloirs du Greg, alors que nous on avait juste des idées de montage et de film. Et quand j'ai vu son film, j'étais beaucoup surpris, parce que c'est science-fiction documentaire. Il nous arrive à nous faire croire quand même qu'on est sur la Lune, en train de suivre des personnages qui ont été importants sur cette Lune pour construire la nouvelle vie, quoi. Alors qu'en vrai, on est dans un jardin, dans une forêt à Paris, et On voit en fond d'écran la Terre parfois comme ça en train de tourner, et j'adore ce mélange entre réel et science-fiction carrément. Et limite on oublie en fait qu'on est sur Terre, on pense vraiment que ces gars-là ils sont sur la Lune et qu'ils nous attendent pour qu'on les rejoigne. Donc ils ont fait pousser une forêt, ils ont fait pousser toute une vie là-bas, et il y a toujours une voix qui leur parle d'en haut, dans des haut-parleurs accrochés dans les arbres, qui diffusent des oiseaux, bruit d'oiseaux, bruit de forêt, mais aussi qui leur dit « Bonjour de la Terre, nous sommes fiers du travail que vous êtes en train d'effectuer, nous arrivons bientôt, et tu les vois, et alors que c'est juste des SDF en fait qui vivent à Paris, dans cette forêt même, que le réalisateur a voulu mettre en avant, mais à travers une fiction, science-fiction même.
C'est-à-dire que quand tu dis que c'était des personnes sans domicile fixe, c'est dit dès le départ du film ou c'est
On le comprend en fait, à leur façon d'être et à leur façon d'être habillé, ou... on comprend en fait finalement que c'est les gens de la forêt qui habitent vraiment là-bas. En même temps, on est emporté, on y croit, on pense vraiment qu'ils sont sur la Lune. Et je l'ai revu ce matin et ça m'a vraiment étonné. Malgré le fait que je suis encore une fois conscient de la tricherie, tu vois.
Cette tricherie marche.
Mais cette tricherie marche parce qu'on voit la Terre en arrière-fond parfois qui tourne, qui passe. Et du coup, voilà, on est dedans, on se dit, je crois que c'est vrai finalement. Il les a vraiment emmenés. Il nous a emmenés. Ça, c'est un pari fou. Et j'aimerais aussi parler d'un film qui s'appelle La Voie Normale d'Erij Sehiri, qui est tunisienne. Donc le sujet direct me parle. On parle de la SNCFT tunisienne, en tout cas les cheminots, et sur une voie normale qui traverse toute la Tunisie et qui s'arrête aujourd'hui en Algérie. Mais normalement, elle traversait toute l'Algérie jusqu'au Maroc. Ouais, c'était la voie principale qui pouvait traverser le Maghreb. Et j'espère qu'elle sera réouverte un jour, franchement, parce que c'est un rêve de pouvoir voyager de la Tunisie jusqu'au Maroc en train.
Ce qui existait avant, à l'époque.
Ce qui existait avant, oui.
Ouais, des années un peu plus...
Pour moi, ça serait un rêve de pouvoir voyager de cette manière. Oh là là, laisse tomber. Et donc voilà, ce film m'a aussi replongé en Tunisie. Alors que ça fait plus de 2 ans et demi, bientôt 3 ans que je ne suis pas rentré, ça m'a permis de me reconnecter aussi au pays et de voir ce qui se passe à travers la galère de ce personnage-là. Voilà quoi, et tous les personnages qu'elle a réussi à filmer, notamment celui qui nous a, je crois, tous marqué, le militant qui passait devant les chaînes de télévision sur les plateaux. J'ai limite envie d'aller le voir en vrai et de lui proposer de faire quelque chose tellement juste, c'est incroyable parfois, un plan ou un personnage te donne envie de faire d'aller à sa rencontre, mais on sent que c'est quelqu'un de particulier, et il a toutes ses cassettes 8 mm H8 qu'il a entassées dans son bureau.
Ouais. Bah oui, parce que pour en dire plus, en fait, c'est qu'elle vient filmer un ami à elle qui a été embauché à la au chemin de fer tunisien, où elle va un peu traverser cette découverte des chemins de fer à travers ce personnage, et que elle rencontre d'autres personnages, dont ce personnage très fort qui grosso modo filme un peu tous les accidents de chemin de fer qu'il y a, tous les endroits où il y a de l'insécurité dû à une mauvaise maintenance, et qu'il est dans une démarche complètement folle et belle d'essayer de dénoncer tout ça pour pouvoir faire en sorte que les chemins de fer soient moins risqués, que les usagers soient moins en danger, parce qu'il y a de nombreux accidents, il y a de nombreuses personnes qui meurent, et on le suit, lui, ce personnage, en train de faire tout ce qu'il peut pour être dénoncé, pour dénoncer ça, jusqu'à passer à la télé tunisienne nationale, jusqu'à être finalement licencié par les directeurs des chemins de fer, etc. etc. Mais bon, on en a parlé un peu hier sur ce film, il y a aussi des choses qui sont... un peu plus, qui pose des questions, parce que c'était intéressant de voir que des gens qui regardaient le film se posaient la question à l'endroit du documentaire de la fiction, mais d'une façon qui était assez intrigante, parce que ce qui pourrait être mis en critique dans ce film, c'est qu'elle décide de filmer son ami, et qu'il y a comme une sensation, en tout cas que moi que j'ai ressenti, que cette facilité à filmer son ami, ou alors le fait qu'elle se cache derrière son ami, fait que quand elle rencontre ce personnage qui est fabuleux, elle le filme pas d'une façon fabuleuse comme il le mériterait, et qu'à un moment on se pose des questions sur sur comment elle est amenée à faire ce choix de continuer à suivre son personnage qui est son ami, qui finalement l'épaisseur est toute relative de son épaisseur, et à passer à côté d'un personnage qui est fabuleux. On en a parlé hier, on se disait que peut-être c'était des questions de production.
Voilà, d'écriture de dossier, parce que généralement quand on écrit un dossier, on voudrait que le film ressemble à ce dossier-là. Et peut-être qu'au cours du film, elle a eu l'idée, je sais pas, Eris, j'ai vu son premier film, je me souviens encore d'elle, je travaillais, j'étais bénévole sur un festival en Tunisie, avec l'association des réalisateurs tunisiens, on faisait les rencontres des réalisateurs tunisiens, réalisatrices tunisiennes. Et du coup, elle venait déposer son premier film, Le Facebook de mon père, et qui m'avait beaucoup marqué. Donc je sais qu'elle est portée aussi par un regard, par une intention dans sa façon de faire du cinéma, et je me dis... comment elle a pu le laisser passer sans même utiliser ses images, par exemple, ou lui demander quelques bouts de cassette pour construire un récit, ou montrer ça à travers toute cette... C'est un trésor qu'il a, le gars, en vrai. Et je me dis, peut-être, derrière, elle a voulu changer ça, et une contrainte de production derrière, en disant, oui, il faut respecter le dossier.
Voilà, c'est une question qu'on s'est posée.
Voilà, qu'on s'est posée, et on s'est...
Faudrait, si un jour tu as l'occasion de la rencontrer, oui, ça serait intéressant de savoir quel a été son parti pris. Quoi. On en revient toujours à ces questions de production qui, à la fois, nous sont nécessaires pour pouvoir faire nos films, parce que c'est toujours intéressant d'être un peu encadré et d'avoir une certaine économie, mais les contraintes peuvent être très douloureuses de transformer une écriture qui, finalement, peut prendre le risque de ne plus être la nôtre, quoi. Hein? Donc là, on est toujours dans le bus 81, vous avez dû vous en rendre compte. On est en train de s'approcher de la plage et on va petit à petit en descendre pour aller se boire un petit café à la plage des Catalans. Que penses-tu de Marseille, Nader?
Alors, coup de cœur. Dès les premières secondes, quand je suis arrivé à Saint-Charles-la-Gare, le soleil qui a tapé, quoi, et ça se sent, même s'il n'était pas très fort en vrai, on a eu un sale temps, on n'a pas eu de chance, mais même le peu de soleil qu'il y avait déjà me parvenait beaucoup. Les gens sont chaleureux ici, j'ai retrouvé de la Tunisie, j'ai retrouvé un côté de ma ville en fait, dans l'odeur du porc, dans les cacahuètes qu'ils vendaient, dans le jour de lutte. Jusqu'à arriver à la mer et entendre les sons des vagues, bientôt que vous allez entendre en exclusivité aujourd'hui.
Sur Radio Galère 88.4.
Ouais, voilà, dès les premières minutes, j'ai parlé, je crois, à plus de personnes que j'ai... à Paris, quand je suis arrivé, 3 mois, je crois, j'ai discuté avec une personne ou deux. À tout casser, les 3 premiers mois, tout le monde était pressé, tout le monde courait de partout, et je comprends aujourd'hui pourquoi, avec le recul. Mais en arrivant à Marseille, j'étais au café, discussion s'est déclenchée directement. Et voilà, quoi, j'ai l'impression d'avoir connu tout le café juste normal, quoi. C'est quelque chose de naturel, et ça, c'est la Méditerranée, c'est le soleil. Qu'est-ce que tu veux?
Oui, c'est la mer où on pourra peut-être, on verra pas la Tunisie, mais on pourra l'imaginer de la mer, quoi.
Je l'ai vécu bizarrement. Je me promenais à Marseille et il y avait un resto tunisien qui avait le même menu, le même identique menu qu'un resto tunisien en Tunisie que je connais. Donc voilà, je rentre, je prends une brique et un chapati, on appelle ça, c'est les sandwichs un peu tunisiens, chapati. Je déguste ça, c'est génial. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai oublié que j'étais à Marseille. Je me suis déconnecté parce que le gars qui passait par la route par les Tunisiens et qui saluait le gars qui nous a préparé le sandwich, un monsieur qui rentre, il parle en tunisien, celui qui sort, il parle en tunisien. Et voilà, plongé dans ce décor, j'ai complètement, vraiment complètement déconnecté de Marseille. Et je me suis rendu compte quand je me suis réveillé en vrai mais je me suis dit, mais je suis à Marseille en vrai. C'est impressionnant ça. Ça, on peut trouver qu'à Marseille peut-être.
Ouais. Ça a dû te faire du bien aussi de vivre ça, et un peu la question de comment ça peut, ça fait du bien au manque, quoi. le manque de là-bas. Parce que ce que tu disais, c'est que ça fait 2 ans et demi que tu es là, que pour le moment, tu n'as pas pu
y rentrer,
et que tu es aussi, et on va arriver petit à petit, en train de raconter un peu une histoire autour de ça, et que on peut pas dire autre chose que la fête, que le manque, c'est ce qui aussi nous donne du désir d'aller chercher des choses pour le remplir, quoi.
Ouais. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, dans chaque chose, on peut trouver un rapport avec le pays, avec le souvenir d'enfance. Et parfois, c'est vraiment pas ça, mais on s'accroche à cette idée et on est dedans pour le vivre. Et comme tu dis, pour remplir, en fait, ce vide. L'odeur du port, pour moi, c'est, voilà, ça me raccordait à ça. Je suis resté presque 2 heures devant le port à sentir l'odeur, tout simplement, ou la mer, ou l'odeur des cacahuètes. Ça, j'en ai acheté un paquet jusqu'à avoir mal au ventre. On descend ?
Ah ouais, on descend, ouais. Et donc, l'odeur des cacahuètes.
Voilà, je m'accroche à chaque chose qui pourrait me relier à la famille, à l'enfance, à ma ville qui. En fait, voilà, faut peut-être expliquer, je ne sais pas.
Bah, on va se faire une petite pause cigarette,
ouais.
Et puis
allez,
on reprend.
On
ça te va ? On vous retrouve après une petite pause musicale. Et on vous retrouve avec Nader S.A.H. On est toujours sur la route pour aller à la plage des Catalans à Marseille. Et une petite pause musicale à tout de suite. بفرقي ورا الحدود بلاد بالحياة ياكلك الدود تعيش في الزبل بلاد تحتي ما بلاد موت عندك عارف فيك الذل شفت بعيني إلا هبل متخرج دكتور بقى بطال اللي نهتل اضرب في راسه بالعقور عيش بساد بكاني حالك يا شعبي برشا فسد في بلاد ضع فيها تعبك وتعبي تعبي بالضمير بتبعتكم تنفرو فرض ربي ونفسي نسير مهما قلب تنحرو جيت من بلد الخير للغير البد والكود بلد للغير تتمنى الخير ألف باب عليك يتسد حبونا نتبعوا لي صار نساو فما طريق مين كرهونا في طريق السلاح ما شافوناش وقت عصين ضحينا بالتخمام بالكلينا مرضنا بالسول وما صغرهم في الهنا وإحنا تعدينا تحلي البول متوحش لميمة متوحش ريحتها نفاق كره عالغربة يلزوك نتمنى نوخر الوقت ونشوف بسمتها في عمري زعت الورد كلموني بالشوكة في بلاد لصيران تونس حبس بلا سورة حيو تاجور وسيمان واش متقلب لنا مكسورة مقهور في بلاد عباد هنسات العبادة ناس ركعت للمادة ونسات السجادة سجادة Donc voilà, on est de retour sur Radio Galère 88.4. Les émissions, on peut les trouver en podcast sur derive.tv. On est avec Nader S. Aïach. Et on est enfin arrivé à la plage des Catalans. Alors il y a beaucoup de vent, donc pour que l'émission vous reste audible, on s'est un peu caché. Mais cependant, on voit la mer et elle est très agitée. Et elle est toujours aussi belle. La mer, n'est-ce pas, Nader?
Alors, pas en commencer parce que c'est large comme la mer, limite le sujet.
Tu habites près de la mer en
voilà,
Tunisie?
C'était l'enfance, l'été surtout. Mon père travaillait dans un hôtel, donc on avait accès à la mer et à la plage, mais du côté touriste, avec des transats et c'était génial. On attendait l'été impatiemment, quoi, parce que on passait presque toute la journée là-bas. C'est devenu comme un refuge pour moi au fil du temps. J'aimais beaucoup y aller quand ça allait mal, l'hiver comme l'été, quoi. C'est un endroit vraiment où je suis vraiment attaché à ça, quoi, au son des vagues. Et alors, déjà à Paris...
Ça doit te manquer. Comment à Paris tu combles ce manque de mer?
Bah, en fait, parfois j'ai testé même d'écouter des vagues, mais bon, c'est pas la même chose. Mais parfois, je suis surpris dans un plan de film quand il y a des vagues. Et c'est incroyable à quel point ça me touche. Ça m'est arrivé de pleurer face à un plan d'un gamin où on entend des vagues ou le bruit de la mer. Et que ça me surprend dans un plan, dans un film en tout cas, ça m'a tellement touché que ça m'a fait pleurer. Mais aussi parce que ça fait longtemps que je ne suis pas y allé. Là, c'est la première fois que je vois la mer depuis 2 ans et demi. Deuxième fois pour être honnête, parce que dès que je suis arrivé à Marseille, la première chose que j'ai faite, je suis venu ici voir la mer tout seul. Comme des retrouvailles et un retour, et mine de rien, ça m'a fait beaucoup du bien. En retournant après pour l'ouverture du festival, je me sentais léger. Et on dirait que mes oreilles étaient nettoyées en quelque sorte, ou je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça doit être le bruit des vagues, l'horizon, l'air.
Tout un tas de sensations,
exactement.
Et alors tu me parlais, je trouve que c'était beau ce que tu as dit, en tout cas par rapport au fait qu'on fait une émission et qu'on parle de cinéma. Mais la mer, c'est tellement aussi le cinéma, on projette tellement de choses là-bas. Mais c'est beau ce que tu dis, cette question, qu'un plan où tu as vu la mer que tu n'avais pas vu depuis longtemps. Et donc ça me donne envie de te poser la question, le cinéma, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que...
C'est une façon de m'échapper, je crois. M'évader et de faire quelque chose que j'aime en vrai. C'est le métier en soi, l'expérience cinématographique elle-même qui est importante.
Parce que quand tu dis que c'est pour t'évader, je suis d'accord avec ce point de vue, mais il y a aussi, moi je trouve, tu vois, par exemple, quand tu parles de ce plan, ce plan où tu vois la mer, que tu n'as pas vu depuis longtemps, et que ce plan te crée beaucoup d'émotions, je trouve que c'est aussi ça que je vois dans tes films et que j'aime dans ta manière de filmer, c'est qu'il y a quelque chose beaucoup à l'émotion, quoi.
Tu veux dire peut-être en regardant un film alors, pas dans la création ou... Pour moi, il faut que ça touche, bien sûr. C'est à travers des images, de la sensibilité. Après, ça peut parler à toute la salle, comme à une seule personne dans la salle. Et tout dépend de sa relation avec la chose qu'il est en train de regarder. Surtout, ça aurait été pas la même chose si ce plan de la mer, pour moi, si je suis pas resté 2 ans et demi, 3 ans en rupture avec la nature, quoi. Ça aurait été peut-être un plan banal.
Donc, il y a la question de la mémoire.
Il y a la question de la mémoire, et c'est peut-être pour ça aussi la caméra H8 fonctionnait très bien, parce que ça raccordait toujours avec la mémoire.
Le fait que ça soit un support plutôt vieux.
Voilà, ça faisait rappeler caméra de famille, film de famille. L'objet même de la caméra qui est un petit cube comme ça, rappelait ces anciennes caméras qu'on a vues dans notre enfance en vrai. Et ça m'a permis de rentrer un peu partout en toute liberté et en toute facilité. Donc voilà, c'est toujours, on revient au même point, c'est des sensibilités et chacun comment ça lui parle, quoi. Mais pour moi, ça reste toujours une évasion, faire des films, dans l'expérience même cinématographique, sur le plateau, sur la préparation. Et après, bien sûr, on raconte une histoire pour toucher quelque chose, quoi.
Mais alors là, on va en profiter pour revenir à un des films que tu es en train de faire, parce que bon, tu es quelqu'un qui travaille beaucoup la question du cinéma, même on pourrait dire que c'est ta vie, tu as plusieurs projets de films ensemble et tu as une... Tu veux pas te mettre plutôt là, comme ouais. Ça j'ai l'impression que le vent il sera moins fort si je le protège un peu avec mon dos et ça sera plus facile écouter. Je suis pas sûr, on va essayer. Ce qui m'attire dans ta manière de faire des films, c'est comment... Ils viennent chaque fois d'une sorte de situation qui est à la fois qui est souvent une situation intime, et cette situation intime est souvent reliée à une dimension du politique, et que par exemple le film sur lequel tu es en train de faire, qui est un film qui pour moi raconte aussi ces deux choses, c'est-à-dire que c'est un film qui naît aussi d'une situation administrative où tu es en attente d'avoir des papiers. Cette situation administrative fait que tu ne peux pas retourner en Tunisie. Et donc avec tout ça, il y a une question de manque de là-bas, la nécessité d'y retourner, de s'y évader, et que le film que tu es en train de faire naît un peu avec ces deux,
ces deux choses comme point de départ, qui s'appelle d'ailleurs pour le moment...
Et Dieu créa le chocolat.
Et Dieu créa le chocolat, oula.
Le titre, il est marrant.
Le titre, il a une...
Et Dieu créa le chocolat, et qui n'a rien à voir peut-être avec les sujets du film, ni rien du tout. C'est juste le personnage que je t'ai présenté tout à l'heure à travers les rushs qu'on a pu visionner. C'est sa phrase favorite. D'accord. Il adore dire « Dieu créa le chocolat ». Il le dit en tunisien, ça donne « Wakhlaq harrab chocolat ». Et parfois, il remplace chocolat par tout ce qu'il est en train de regarder. Et Dieu créa la montagne, et Dieu créa la mer. Tout dépend, et Dieu créa le poisson quand il est en train de manger le poisson. Mais il y a toujours le chocolat qui revient. Et le chocolat en Tunisie, ça veut dire aussi, ça veut dire du shit en fait. C'est le bout de chocolat, quoi, tu vois. Et parfois, j'ai l'impression qu'il parle de ça plus qu'autre chose, quoi.
Et donc, oui, tu m'as montré des images tout à l'heure où tu m'as montré un peu des images qui étaient d'un registre d'images très différent. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire sur ce film? Ou finalement, sur ce film, j'ai l'impression, même s'il en est à son début et qu'il va être long, c'est pour ça qu'on va juste un peu l'évoquer en essayant de garder une forme de suspense. Mmh. Mais dans ce film aussi, tu continues ta recherche formelle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire de situation administrative où tu n'as pas tes papiers, oui. Et comment tu restes en lien avec la Tunisie, quoi. Mais tu continues aussi d'explorer des outils divers dans une forme de quelque chose de précaire.
Toujours à fabriquer avec ce qu'on a. Moi, j'ai pas de budget, je travaille à côté. C'est toujours dans cette économie de vie que j'essaie de faire des films. Donc, je crée avec les choses que j'ai devant moi sans vraiment m'encombrer dans des dettes et aller acheter une grosse caméra. Et après, je vais devoir la rentabiliser, aller travailler dans des mariages. Vraiment, je travaille avec une webcam en ce moment. Pour ce film-là, en tout cas, c'est une webcam qui est accrochée au plafond et l'écran de mon ordinateur, quoi. Ça veut dire vraiment les supports. On a tout le temps, tout le monde a ça en permanence chez lui. Donc moi, je les utilise pour faire un film, pour raconter une histoire. Donc j'enregistre mon écran en permanence entre les conversations que j'ai avec ma famille et ce personnage-là que je découvre par hasard sur les réseaux sociaux.
Alors, explique-nous un peu cette découverte sur les réseaux sociaux de ce personnage. Alors,
après la réponse de la préfecture, j'ai eu un gros moment de panique. De ne plus pouvoir retourner en Tunisie et d'être dépassé par les événements. De ne plus savoir vraiment combien coûte une baguette et combien... voilà, ce genre de choses. La première chose, c'était les informations. Je me suis rabattu sur les infos, les chaînes. Mais bon, finalement, ça tournait en rond, limite. Et c'était les mêmes infos en boucle. Rien d'intéressant au fond, quoi. J'ai commencé à regarder des vidéos sur Facebook et petit à petit, j'ai découvert les vidéos en direct. Que les gens, et c'est l'ère du direct en ce moment, on est tout le temps en train de faire des directs. Et donc Facebook nous donnait la possibilité d'accéder à une grosse carte du monde où il y avait plein de points partout, et ces points-là signifiaient les directs à ce moment-là. Donc moi, je zoomais toujours sur la Tunisie, il y avait 4-5 points qui apparaissaient, 6-10, ça dépend de la journée. Alors il y avait des gens qui filmaient dans la voiture, des gens qui filmaient un match de foot en direct, et parmi eux, il y avait... cette personne qui s'appelle Shams, qui était en permanence en train de faire des directs, mais qui se distinguait des autres. Il filmait son quartier, il filmait sa maison, il filmait son quotidien. Et ça m'a beaucoup marqué et intéressé dans sa manière de filmer aussi. J'avais l'impression qu'il y avait une sorte de cinéma dans son geste de filmer sa famille. Je trouvais qu'il pouvait y avoir un lien entre nous deux, de vouloir filmer sa famille aussi. Donc je l'ai rajouté sur Facebook et depuis 3 ans maintenant, je regarde sa vie en permanence et ce qu'il fait. Je connais son fils, je vois grandir son fils. Je suis rentré un peu en contact avec lui, mais sans vraiment lui dire qu'il y a un projet de film derrière. Et j'espère qu'en retournant en Tunisie, je pourrai lui proposer cette idée et avoir son accord pour prendre tous ses directs et d'essayer d'en faire un film en parallèle à ma situation ici en France, quoi.
D'accord. Et c'est là où tu dis que tu évoques la question de t'évader, parce que à travers ces images de ce personnage-là, au-delà de ta question de cinéaste, ou en lien avec la question de cinéaste, c'est toi en tant que Nader qui vit la Tunisie.
C'est incroyable ce qu'il filme, parce qu'on est dans des hammams, on est dans son quartier, on est dans des hôpitaux, on est à l'école avec son fils, on est à la maison, au café. Ça, c'est très important, le café, parce que c'est là-bas où il y a des choses qui se passent et qui se racontent. C'est le poumon, quoi. Vraiment, il m'emmène partout avec sa caméra. Cimetière, enterrement, mariage, l'été, la plage l'été, quoi. Il filme beaucoup, beaucoup la mer. Lui aussi, il a un rapport avec la mer qui est incroyable, quoi. Il y va, il reste tout seul, il fait des directs. Une façon d'être seul et pas seul à la fois, quoi. Et lui, ce qui m'intéresse chez lui, c'est que toutes ces vidéos qu'il fait, en fait, il veut montrer son public à qui il s'adresse directement, c'est ses amis qui vivent en Europe. Il les cite tout le temps dans les directs, il leur dit bah, hey, toi qui vis en France ou à Marseille, regarde le soleil que j'ai ici, est-ce que tu as la même chose à Paris? Et tu vois ce même gars qui est connecté aussi en direct, qui est en train de regarder, qui lui répond à travers des commentaires parfois, ou qui rentre directement en contact, appel téléphonique, en direct, quoi. Ça aussi, j'ai beaucoup d'interventions de cette manière. Des gens qui vivent en France, qui font des directs avec Shams, mon personnage, quoi. Donc voilà, pour moi, comme tu dis, c'est un moyen de m'échapper, de garder un lien direct, comme le cinéma direct, un peu et en direct, puisque c'est en direct. Et de pouvoir savoir ce qui se passe en vrai.
Les élections... passé du cinéma direct au cinéma en direct.
Exactement.
C'est intéressant.
Ouais. Exactement. Tu sais, par exemple, les élections présidentielles, les dernières qui sont passées, j'ai ni voté, rien du tout, puisque je suis en France et je suis inscrit en Tunisie. Bref, j'ai pu vivre les élections de l'intérieur grâce à Shams en vrai, parce qu'il était à fond dedans, il filmait les interventions dans sa ville. Et après, la grande joie qu'il y a eu lors de l'élection du président actuel, Kais Saied, il a gagné quand même à 78%, 72%, ce qui est énorme, avec des votes, des vrais votes, des gens qui sont vraiment partis voter pour lui, et non les 99,9% de Ben Ali à l'époque. Ça, c'était vraiment le peuple qui a vraiment choisi pour une fois son président, et c'était une joie immense. Le pays, c'était une fête le soir des élections. C'est un peu le gars du peuple qui a gagné, quoi. Et à travers les vidéos de Shams, j'ai vécu en fait cette joie qu'il y a eu en Tunisie, qui n'a pas eu lieu à Paris, bien sûr. Et je l'ai vécu dans son quartier. Et vraiment, c'était incroyable comme énergie à ce moment-là, quoi. J'aurais pu vivre la révolution de la même manière, en fait, en étant bloqué ici. J'en suis sûr, à travers Shams, j'aurais pu vivre la révolution de l'intérieur. C'est dans cette direction-là que j'essaie de mener les choses.
Et donc, d'accord, alors juste un petit virage politiquement, histoire de situer les choses, et histoire de savoir. Donc là, il y a vraiment eu une sorte de vote démocratique,
oui,
avec un personnage politique qui sortirait un peu du lot des personnages, ouais, politiques qu'on a l'habitude. Et donc, tu sens une croyance dans quelque chose qui pourrait arriver ?
Oui, moi, je garde l'espoir en ce moment. Je suis porté par ça, peut-être aussi avec ma condition ici en France, de garder toujours l'espoir pour pouvoir continuer à marcher. Mais je garde espoir en lui, en ses principes, en ce qu'il avait dit surtout. Mais ça m'a l'air d'être une personne droite, quoi. C'est un professeur à la fac, c'est un gars qui partait au café. J'ai un lien avec le café parce que mon père aussi passait beaucoup de temps au café après le travail. Et souvent on allait au café juste pour le voir, quoi, et rester avec lui. Et je connais l'ambiance des cafés quand ça commence à jouer aux échecs. Donc c'est vraiment l'ambiance, c'est le poumon du peuple, quoi. C'est là-bas que tu peux vraiment comprendre si le pays va mal ou pas. Et Kais, il était vraiment à l'intérieur, il finissait ses cours, il passait au café avec tout le monde, avec sa vieille bagnole, et voilà, quoi, il est sorti du lot. Après, il faut pas trop se laisser emporter, bien sûr, par ça, et rester vigilant. Mais si vraiment il dévie, ça ferait mal, vraiment mal. Parce qu'on tient sur un fil, en fait, en la croyance en la démocratie et en son système. Et si ce président, en tout cas, déçoit le peuple qui a voté vraiment en masse pour lui, mais avec vraiment une vraie conscience de voter pour cette personne-là en donnant sa vraie confiance, quoi, l'espoir, ça serait un sacré coup pour la démocratie elle-même, quoi. C'est-à-dire, le prochain qui va se présenter, et peut-être qu'il sera peut-être un peu plus honnête, ben, ne passera pas à ce moment-là. Et ils vont préférer un mec qui est au moins sincère dans sa façon de dire « oui, je vais faire du business et puis le pays », ils vont voter pour lui à ce moment-là. Au moins, il a été honnête sur ça, quoi.
Bah, écoutez, ça va être intéressant ce qui va s'y passer. En tout cas, j'espère
que ça pourrait faire des échos dans les ailleurs, surtout l'ailleurs de cet ici, en France, où politiquement c'est plutôt assez la catastrophe, on va dire économiquement et social aussi, quand même, avec notre cher Macron. Voilà, donc là on va vous laisser quelques secondes avec le bruit de la mer.
C'est déjà ce que je vais t'envoyer comme musique alors pour ça.
Ah, tu vas quelle musique tu vas nous envoyer ?
C'est en fait une musique qui parle de la mer, de Chihri même, et il dit El Bahre Yathakli, quoi. Pourquoi la mer rigole, quoi. Alors que la situation est vraiment catastrophique et chaotique. Et j'essaierai de trouver la traduction.
Ah, bah oui, puis que tu nous envoies cette musique d'ailleurs, dont on ne sait pas si tu voudras la mettre peut-être au début. Au milieu.
Si on peut la lancer juste maintenant.
Si on peut la lancer maintenant et puis après la musique. On vous laisse quelques secondes donc avec la mer, avec le vent. Après on écoutera la musique qui s'appelle, Rodi.
Pourquoi la mer pleure, quoi. Pourquoi la mer sourit.
Voilà, pourquoi la mer sourit. Et puis après on se retrouvera dans le bus à vous proposer ou à parler aussi d'une autre expérience de, de Nader. Qui est la réalité virtuelle et comment la réalité virtuelle peut devenir un outil peut-être de cinéma. Donc voilà, la mer, le silence.
البحر بيضحك لي وانا نادل الدل عامل الاولاد البحر غضبان ما بيضحكش اصلي الحكايه ما تضحكش البحر غضبان ما بيضحكش اصلي الحكايه ما تضحكش البحر جرحه ما بيتبلش وجرحنا ولا عمره دبل والبحر بيضحك ليه وانا نادله الدل عامله الاولى مساكين بنضحك من البلوى زي الديوك والروح حلوة مساكين بنضحك من البلوى زي الديوك والروح حلوة سرقاها من السكين حموى ولسه جوه القلب امل والبحر بيضحك ليه 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 وانا نازله الدل عامله الاولى بتقول حكاوي وغناوي ولالنا فخار هناوي بتقول حكاوي وغناوي يا قلة الذل انا ناوي مشرب ولو في الميه عسل والبحر بيضحك للي وانا دلة دلة عاملة لولا سعينا يا ما مالينا ومالينا لغيرنا وعطشنا سعينا صبرين وبحر ما يرويشنا شايلين بدال الحلة علل والبحر بيضحك ليه ليه انا وانا نازله الداله عامله الاولاد ولو مرسالي وصل والبحر بيضحك ليه وانا نازله الدال عامله الاولاد بيني وبينك سور ورسول
Voilà, on est de retour dans le bus, on vient de quitter la mer. La mer était très belle, il y avait un beau soleil, il y avait beaucoup de vent. D'ailleurs un peu trop de vent pour nos corps frêles. Et donc on a décidé de reprendre le bus pour rentrer. Et donc là on est avec Nader de nouveau pour la dernière partie de l'émission. Et Nader vient d'installer sa caméra virtuelle, c'est ça ?
Alors, voilà, pour décrire, je porte un casque Oculus sur la tête, quoi. Et j'ai activé une option que j'ai découvert par hasard qui s'appelle caméra réelle. Et ça me permet, en fait, d'avoir un écran devant moi et de voir en direct, on dirait un regard subjectif, caméra œil. On revient un peu à ce rêve de Vertov où il peut filmer directement ce qu'il est en train de regarder. Et ça, c'est génial.
Bah dis donc, parce qu'on parlait tout à l'heure que le cinéma direct était devenu direct cinéma. Maintenant, on en est à la caméra virtuelle qui finalement devient un peu l'œil caméra en écho à Vertov. Et ça fait très drôle de te voir parce que j'imagine, et même là, on est à côté d'un groupe de jeunes filles et de jeunes garçons, parce que ça te donne une apparence très, pas SF, mais on pourrait dire quelque chose. Il a un gros cube noir et il filme d'un point de vue très subjectif et très... tu disais comment ?
On dirait un regard d'œil, en fait.
Voilà, un regard d'œil, l'œil caméra.
L'œil caméra, quoi, c'est vraiment ça. Donc je découvre ça par hasard, en regardant des choses. Alors pour situer un peu le contexte, je fais une thèse sur la réalité virtuelle et le cinéma documentaire. Comment on peut faire aujourd'hui un documentaire avec cette nouvelle caméra qui filme en 360 degrés. Donc je suis amené souvent à regarder des choses sous casque, des documentaires, des choses pour pouvoir en parler dans ma thèse. Et voilà, en regardant des choses, un jour j'ai appuyé sur un bouton qui m'a emmené vers un menu et il y avait écrit caméra réelle. Déjà, caméra réelle, ça sonnait très très bien. Donc j'appuie et soudainement un écran apparaît devant moi où j'arrive à voir le décor réel comme si j'avais des yeux sans casque. Donc je me dis comment passer devant une chose pareille. Que faire? Il me faut. J'ai l'impression que le film m'a encore choisi alors que j'ai rien choisi. Et à ce moment-là, je reçois un coup de téléphone de Gilani, encore une fois, qui me dit Fadel est à l'hôpital. Fadel, c'est le musicien, acteur sur lequel moi et toi on s'est rencontrés, Lo, sur le film de Gilani Saadi, Bidoun 4. Donc je me retrouve à aller voir cet acteur qui est devenu notre ami, qui est à l'hôpital et condamné à ne plus jouer à son instrument pendant une année et demie. Et c'est à ce moment-là que je lui propose de faire quelque chose avec cette caméra-là et ce dispositif. Donc encore une fois, c'est le sujet qui me choisit, j'ai l'impression.
Au moment en plus où tu es en train de découvrir un nouvel outil. Donc ce qui fait voilà. Donc en ce moment, tu es en train de filmer Fadel. D'ailleurs, Fadel, je t'embrasse très fort si tu es amené à écouter cette émission. Et j'espère un rétablissement chouette et rapide. C'est une spéciale dédicace.
À Marseille.
Et que tu viennes à Marseille pour nous montrer comment tu es un merveilleux joueur de oud. Mais donc, ce qui fait que là, en ce moment, tu es à l'hôpital, tu vas voir Fadel et tu es avec ton cube sur les yeux à filmer Fadel à l'hôpital.
Exactement.
Et à filmer les gens de l'hôpital. Alors, dis-nous-en un peu plus parce que voilà comment ça se passe, les gens.
Alors, au début, j'étais très timide avec ce casque parce que comment faire pour me trimballer avec un casque dans le milieu entre les gens? Et après, de plus en plus, je commence à sortir de cette timidité parce que je suis obligé, en tout cas, si je veux faire un film, c'est dépasser cette peur et cette crainte. Donc, j'ai commencé à me balader avec le casque directement dans les couloirs de l'hôpital et à l'accueil entre les gens, les patients qui sont là-bas. Et bizarrement, les gens m'acceptaient avec mon casque et j'arrivais aussi à avoir des discussions avec ces gens-là alors qu'ils ne voyaient pas mes yeux et que je portais un casque qui est tout à fait mal poli quoi, et la dame, je lui demande mais madame, ça vous a pas dérangé que j'ai un casque? Elle me dit non, au contraire, je vous trouve très beau avec. Ce qui m'a encouragé en fait à parler à tout le monde en portant un casque. Et les gens en fait tout simplement pensent que c'est comme si j'avais un téléphone dans les mains. Aujourd'hui, je l'ai devant les yeux dans un casque. Et qu'aujourd'hui, on est arrivé à cette époque-là où les casques sont devenus une partie intégrante de notre vie. Et c'est tout à fait normal. Ça, c'est les personnes âgées.
Ouais, voilà, c'est ça que je voulais préciser. C'est les personnes âgées. Pour eux, et finalement, c'est étrangement, ou peut-être de façon cohérente, c'est plutôt les jeunes qui sont intrigués par ça. Alors que c'est les jeunes qui connaissent le plus.
Oui, c'est pour ça qu'ils sont intrigués, parce que comme là, les jeunes qui sont dans le bus, et ils sont en train de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Ça ne sert pas à ça, en vrai, avoir un casque en réalité virtuelle pour se balader. Quelle est l'utilité, au fond, de se balader avec un casque? Si on peut voir la même chose. Moi, la seule utilité que je trouve dans ça, c'est la possibilité de faire un film avec et d'enregistrer ce que je suis en train de regarder finalement. Mais au fond, ça sert à rien de porter le casque dans la vraie vie comme ça, à moins qu'on veuille se protéger les yeux, mais ça sert à rien quoi.
Oui, d'accord.
Cette caméra réelle, au fond, on ne sait pas à quoi elle peut servir. Pourquoi Oculus a mis cette caméra, je ne sais
pas. Pourquoi il l'a appelée caméra réelle, alors qu'au final, c'est surtout une caméra que les gens ont plutôt tendance à utiliser chez eux pour vivre des situations ou pour vivre des jeux de...
Oui, ça ne sert à rien d'activer. Au fond, je ne sais pas à quoi ça pourrait servir, à part le fait de faire un film avec.
D'accord.
Avoir la caméra enclenchée comme ça...
Donc ce qui fait que t'es en train de donc tu filmes assez régulièrement cette histoire.
Depuis le 18 décembre, maintenant je filme presque tous les jours. C'est un tournage qui m'a pris en fait sur le vif. Et là encore une fois, je dois m'adapter à la situation. Soit je prends le pari de le faire et je crois sincèrement à mon idée et j'y vais à fond. Soit je continue ma vie quoi.
Au moment, t'as fait le choix d'y croire profondément.
Alors, oui, il y a l'intuition dans l'histoire. Je me dis, en fait, il y a quelque chose à faire. Donc, je fais tout pour intégrer ce film-là dans ma vie quotidienne, entre le travail, les études, la thèse, pour que je puisse filmer ce moment qui ne reviendra plus jamais. Fadel à l'hôpital. On va pas un jour, je vais pas demander à Fadel de retourner à l'hôpital juste pour le film, quoi. Ça veut dire que c'est maintenant ou jamais, et ça fait partie des règles du documentaire quand on choisit de travailler sur le vif, quoi.
Oui,
et
puis qu'un documentaire au-delà, un documentaire qui finalement va au-delà de ce genre de documentaire aussi, parce qu'il y a de la réalité virtuelle, tu travailles aussi la question de la mise en scène, tu vas te retrouver avec des archives, tu vas, en tout cas, voilà, donc t'intègres ce projet de film. Ou c'est le film qui t'a attrapé, tu vois comment l'intégrer dans cette vie où finalement tu as ton travail alimentaire dans un restaurant.
Oui, je travaille dans un resto libanais. Je vous invite tous à manger. Je fais un peu de pub pour le resto parce qu'ils sont vraiment très sympas avec moi.
Alors donne l'adresse.
Alors c'est au 1 rue de l'école polytechnique, dans le 5e arrondissement à Paris, et ça s'appelle Casa Maza. Je vous êtes toutes et tous invités à manger le meilleur falafel de Paris.
Alors voilà, donc une petite page de pub. J'espère qu'on aura des subventions pour Radio Galère par ce restaurant. On verra la suite du démarchage. Mais alors ce qui fait que moi là, dans ce qui fait, c'est un mot que j'utilise souvent. Donc tu fais ce film-là, tu fais ta thèse, tu fais cet autre film qu'on a parlé au début sur ta situation administrative et ton rapport affectif à la Tunisie. Donc finalement, tu travailles et tu fais des films. Ta vie est... À l'heure de maintenant, c'est totalement ça.
Ça tourne autour de ça, et c'est un choix de vie aussi. C'est pas facile parce que, limite, on n'a pas d'autre vie à part cette vie-là. Et c'est un sacrifice. C'est pas un sacrifice au fond pour moi, c'est un choix en vrai. Pour le moment, après enchaîner 3-4 projets, c'est vraiment très très difficile. Je crois que j'ai le temps, encore un peu de temps et l'énergie pour le faire. Mais après, je pense que aussi, je ferai peut-être deux projets, un projet à la fois, quoi. Mais essayer aussi d'aller vers un peu le sens de la vie et peut-être construire une vie de famille, avoir un enfant, ce genre de choses. J'ai vraiment envie de les vivre, quoi. Donc,
tu sens que t'as quelque chose, que ça, c'est des choses qui sont importantes pour toi de vivre.
J'aimerais. Maintenant, je sens de plus en plus le besoin. C'est peut-être parce que j'ai 30 ans aujourd'hui. Ces choses-là, je n'y pensais pas avant, et maintenant, je me dis, je sens comme une envie de le vivre en fait. Et bon, pour y arriver, c'est pas une formule mathématique mythique. Donc, quand ça viendra, c'est sûr. Mais je sens l'envie, quoi.
Donc, il faudra que
le cinéma reste quand même un point central. Donc voilà, c'est une formule.
Comment tu vas changer un peu ta manière de faire du cinéma pour laisser de la place à ça? Donc, ça sera sûrement des sacrifices. Pas forcément, non, pas des sacrifices, des choix, mais qui peuvent être durs à faire.
Oui. Voilà.
Si un film t'attrape et.
Comme maintenant, par exemple.
Voilà,
oui.
Tu devrais dire non parce que.
Je pense pas que je dirais non, mais j'adapterai plus la vie à ce moment-là.
Tu lui donneras la forme que.
C'est pour ça aussi que je disais, la personne avec qui j'aimerais partager ça aussi serait d'accord pour y arriver. Elle n'arrête pas à me croire que je suis en train de la regarder en haut. Alors, ça vous fait quoi de parler à une personne avec un casque comme ça?
Ça fait peur. Oui, je croyais qu'il voit quelque chose, mais je sais pas quoi.
Je te vois en même temps que je parle. Et en même temps, je consulte mes mails, et en même temps, je regarde Facebook. Et aujourd'hui, on peut tout faire en même temps. Notre cerveau, il est devenu ultra, ultra développé. Bienvenue, on est en 2030. Hein. Elle fait les yeux de biche. Ça clignote.
Elle bouge là, ça y est. C'est un cinéaste qui vient de Tunisie et il filme avec ça. Voilà. C'est très très original, mais on verra.
J'ai mon film qui est projeté demain si vous voulez venir regarder. C'est un autre film par contre. Elle est où l'actrice qui veut jouer? Demain, je vous invite à venir voir mon autre film qui passe au Vidéodrome à 21h. Pour la séance de clôture du festival, la première fois, ici à Marseille.
Elle comprend rien.
Si. Donc voilà, c'est une invitation à regarder mon film, en fait, demain. Au cinéma, et après, il y a une fête, il y a un DJ qui va faire la teuf. Ça, c'est pour les encourager.
Quand tu continues à faire la publicité, ouais. C'est bien. Bon, on est en... Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Ben non, voilà, ce film est en cours. Comme les autres. Et comme les autres films, tu peux commencer à enlever ta caméra. Hein, parce que tu as filmé ce que tu voulais.
Oui, j'ai eu pas mal de choses. Et ça pourrait même servir à ça, ce qu'on est en train de faire. On fera un... un raccord et tu pourrais le mettre si tu veux, quoi.
D'accord.
Bah, pourquoi pas ?
Bah écoute, hein, pourquoi pas toujours prendre ce qui arrive sans qu'on ait prévu que ça arrive pour faire que quelque chose d'autre arrive, hein. pour se comprendre. Donc là, on arrive, on est où ? Là, on vient de... Je sais même pas où on est. On est toujours dans le bus 81. Il y a toujours Nader à côté de moi avec son casque de télé, de réalité virtuelle et sa caméra réelle. Et on arrive à la fin... de l'émission, on arrive à la fin du trajet. Bah écoute Nader, c'était une belle promenade. Voilà, on a terminé par la question de la vie et du cinéma et te dire que avec le temps qui passe, eh ben tu as envie que la vie prenne de plus de place dans ta vie.
Que le cinéma prenne de plus de
place. Non, que la vie prenne plus de place que le cinéma dans ta
en
vie.
En fait, c'est la vie, c'est le cinéma. Bon, donc...
grosse question.
Grosse question, voilà. Faire la part des choses et, je ne sais pas, trouver un équilibre, en fait, de vie pour pouvoir, justement, continuer à faire du cinéma, en fait. Pas arriver à un moment où se dire, en fait, j'ai sacrifié ma vie pour le cinéma, ce qui est génial aussi. Chris Marker était ça, quoi. Il avait peut-être plein de copines un peu partout, mais sa vie, il l'a consacrée, je crois, à ce qu'il fait, tu vois. Mais je sens que mon envie va vers autre chose, quoi. C'est avoir une famille, avoir peut-être un enfant, adopter un enfant dans ce contexte-là pour comprendre peut-être la vie différemment à ce moment-là et d'un autre axe, quoi. Voir un enfant grandir, ça fait apprendre des choses, peut-être, je ne sais pas. En toute responsabilité, dans ce monde... qui est quand même assez brutal avec l'actualité, disons-le, pour l'actualité, pour la mémoire. On est en pleine période de coronavirus et les gens sont à 500 cas confirmés en France et les gens sortent plus. Peut-être ton voyage a été annulé vers le Maroc.
Ouais, je peux pas partir au Maroc.
Donc voilà, on vit une sacrée époque. Voilà, c'est dans toute cette sphère-là qu'on se retrouve aujourd'hui et voilà, et j'étais heureux de partager cette rencontre avec toi.
Cette petite promenade dans Marseille.
Cette promenade avec toi et ces retrouvailles à Marseille. Voilà. Franchement, merci du fond du cœur.
Écoute, c'était un plaisir. Alors, à qui on peut faire une petite dédicace à toute ta famille
oui, à
toute là-bas
ta famille,
donc,
ouais.
C'est qui alors c'est,
bah, toute ta famille, bien sûr. Aïcha, Samir, Monji, Yasmine, Younes, mes tantes, mes cousines, parce que si je commence à énumérer, on va pas s'en sortir. Et voilà, un petit coucou.
On fait un gros bisou.
Un gros bisou, et j'espère du fond du cœur à très bientôt. À très bientôt, j'espère.
Voilà, à très bientôt, il viendra bientôt. Et puis, écoute, on se retrouvera avec Nader, puisqu'on a plein de désirs à venir. Et on vous remercie d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Sur 88.4 Radio Galère et sur dérive.tv, vous pouvez retrouver les émissions. Nader, on te souhaite de bien profiter du reste de temps qui t'a imparti pour profiter de Marseille et j'espère que tu pourras aller te baigner malgré le vent qui fait.
Carrément, je te jure. Piquer une tête et se rafraîchir et retourner à la vie.
Voilà. On vous embrasse et bonne. Continuité à tous et à toutes. Au revoir.
فؤادي الرحم. أسباب ظنايا أسباب ظنايا 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 ظنايا.